Yaoundé
98.4,
Abidjan
94.3,
Bamenda
95.7.
La BBC est avec vous partout en Afrique.
Vous écoutez BBC Afrique, le journal Servé Koumako.
Bonjour, dimanche 4 février 2007, 12h GMT, l'heure de Londres midi, dont voici les titres. Côte d'Ivoire, des accords au sein de l'ancien parti unique ivoirien, le PDCI, Saïd Menda y reviendra. Togo, c'est l'union des forces de changement de Gilfis Olympio qui achève ses 48 heures de conseil national. L'UFC ira aux prochaines législatives, nous dira Jean-Pierre Omao, porte-parole de l'union des forces de changement.
L'interview examine cette semaine la question de l'arsenal nucléaire présumé d'Israël, un dossier abordé dans l'ouvrage intitulé « Israël et la bombe atomique » du journaliste et chercheur égyptien Mohamed Abdelazim. Interrogé par Christophe Farah, le spécialiste trace le parcours de l'arme nucléaire attribuée à Israël. Il donne également son sentiment sur les ambitions nucléaires de l'Iran au Proche-Orient.
L'interview, un magazine de la rédaction de BBC Afrique.
En 1955, on va constituer la Commission de l'énergie atomique avec un scientifique qui s'appelle Ernest Bergman et qui va prendre, en gros, la charge scientifique à trouver les accords nécessaires et l'eau lourde et l'élément nécessaire à la construction de la bombe atomique.
Alors quand vous dites « on », c'est bien sûr les Israéliens.
Les Israéliens, et donc on a sur le plan politique le Premier ministre Ben Gurion et aussi le jeune Shimon Peres qu'on considérera par la suite en tant que le père de la bombe atomique. Et là, vous avez donc cette commission va se constituer et Shimon Peres va procéder sur le plan politique en secret, bien sûr, de prendre les démarches et les contacts nécessaires avec Paris. Et là, on est donc...
Pourquoi Paris ?
À l'époque, il y a les Américains qui détiennent déjà l'arme atomique, et puis rejoints par les Russes en 1949, et puis les Britanniques vont rentrer dans le club en 1952. Nous sommes donc dans une période où la France cherche à se démarquer par rapport aux autres puissances. Ils vont explorer la voie de l'indépendance par l'atome. Et vous avez aussi, du point de vue technique, les Israéliens qui souhaitent aussi, de leur tour, prendre la voie nucléaire.
Une fois que cette coopération franco-israélienne est en place, quel est le résultat?
Vous avez par la suite, à partir de 1957, c'est la société française Saint-Gobain, nouvelle technologie qui va prendre en charge la construction du réacteur. Et c'est pour ça que j'essaie de démontrer à partir de cette date, les États-Unis et notamment la CIA suivent de très près la construction du réacteur jusqu'à ce qu'elle ait sa forme finale au début des années 60. Là aussi, on détient à la fois des photos satellites mais aussi des photos d'espionnage. Et la CIA détient l'information, et ce qui est surprenant dans cette histoire, que la Maison-Blanche et le département d'État ne sont pas du tout tenus au courant, ou bien ils ignoraient volontairement la construction du réacteur.
Ignorer volontairement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si j'ai bien compris, les États-Unis sont au courant de cette coopération franco-israélienne sur le nucléaire?
Ils sont au courant puisqu'ils essaient d'avoir des photos par le satellite américain, mais aussi par les avions qui vont survoler à la fois le réacteur de Marcoule ici en France et la forme de réacteur de Dimona. Et c'est pour ça que les rapports existants aux États-Unis, notamment auprès de la CIA, montrent bel et bien qu'il y a des documents qui prouvent que les États-Unis savaient ce qui s'est passé à Dimona, sans pour autant prendre les mesures nécessaires de pouvoir faire dévier les Israéliens en matière de la route nucléaire. Oui, tout à fait.
Dimona, c'est ce site nucléaire israélien.
C'est le fameux site nucléaire israélien qui sera seulement visité durant 3 visites par les scientifiques américains qui ne donnent pas du tout de rapport pour dire qu'il y a des activités nucléaires sur ce site.
En gros, Washington a pratiquement fermé les yeux sur le programme nucléaire israélien. Pourquoi ?
D'abord, Israël est considéré bien sûr comme un pays ami, donc il s'agit à l'époque. Et puis, il faut savoir et se rappeler que nous sommes dans une époque où les puissances qu'on connaît maintenant sont eux aussi submergées dans la voie de développer les armes atomiques. Alors, à ce stade-là, on ne peut pas demander aux Israéliens de stopper leur programme. Et aussi, Washington voyait en Israël une continuité dans leur puissance historique, mais aussi il y a une complicité entre la Commission de l'énergie atomique américaine et la Commission de l'énergie atomique israélienne.
Et depuis, Israël, selon vous, maintient une certaine ambiguïté, c'est-à-dire que ce pays affiche une volonté de ne pas nucléariser le Moyen-Orient, tout en envoyant des signaux laissant penser ou laissant deviner comment son arsenal nucléaire supposé, cet arsenal israélien, serait utilisé.
Depuis les années 70, nous assistons à une campagne méthodique de la part des Israéliens pour faire parler de leur arsenal nucléaire sans pour autant parler de cet arsenal de façon officielle.
Donc, c'est-à-dire sans pour autant confirmer ou infirmer.
Et Israël, alors qu'il est, n'a jamais reconnu de détenir les armes atomiques et n'a pas non plus nié les avoir. Ce qui revient à dire, donc, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté historique. Cette ambiguïté, si vous voulez, arrange tout le monde parce que les États-Unis ne peuvent pas avoir une coopération avec un pays qui suit un programme nucléaire clandestin et aussi par rapport aux inspections de Vienne, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils ne peuvent pas aller inspecter les sites israéliens.
Plus récemment, le Premier ministre israélien Ehud Olmert a laissé échapper une phrase lors d'une interview avec une télévision allemande, laissant penser que Israël fait bel et bien partie des puissances nucléaires.
Oui,
est-ce que c'est un lapsus ?
Je la vois comme une déclaration volontaire, si vous voulez, pour renforcer davantage la politique de la dissuasion israélienne qui commence à être érodée, voire échouée. Alors, nous assistons maintenant en Israël à une volonté de la reformulation de la politique de l'ambiguïté qui rencontre des dilemmes importants face à la volonté farouche de la part des Iraniens de se doter des armes atomiques.
S'agissant justement des velléités iraniennes, le gouvernement israélien a démenti cette information du journal britannique Sunday Times, affirmant que Israël aurait eu l'intention d'effectuer éventuellement des frappes aériennes nucléaires contre certains sites iraniens.
Cette information, si vous voulez, est une information que on en parle maintenant beaucoup, mais cette information est datée d'il y a quelques années déjà, depuis 2002 et même avant l'invasion américaine de l'Irak. On parle déjà d'une volonté de frappe aérienne, de frappe préventive contre les installations iraniennes. Donc les dernières informations révélées ici et là est une continuité aussi dans la volonté des Israéliens de démanteler le programme nucléaire iranien. Or, il y a ici deux questions majeures à se poser. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté à la fois militaire et politique de côté israélien? Je ne pense pas, puisqu'il y a beaucoup qui sont contre des attaques. Et aussi, est-ce que les Américains vont laisser les Israéliens mener ces opérations seuls? Cela revient à dire que la question du nucléaire iranien pose problème pour tout le monde et l'implication de Washington et en Irak ne règle pas les choses puisqu'il y a énormément de choses qui ne sont pas encore réglées.
Alors quels seraient les problèmes qui résulteraient d'une frappe israélienne contre l'Iran?
Si vous voulez, vous frappez les installations iraniennes et la région certainement va rentrer dans une phase chaotique mais généralisée puisque il y aura certainement la riposte iranienne. On entend bien depuis longtemps que les Iraniens menacent de frapper le réacteur nucléaire de Dimona. Et une fois une confrontation entre Téhéran et Tel Aviv en la matière, les conséquences peuvent être incalculables, sachant qu'une opération militaire de cette nature est risquée parce que vous avez quand même une grande distance à parcourir et cette distance est importante, c'est très difficile à mener du point de vue logistique, mais aussi sachant que les Israéliens, lorsqu'ils ont frappé le réacteur nucléaire irakien en 1981, les Iraniens, depuis, ont enfoui leur installation nucléaire sous la terre dans des tunnels. Alors, il reste maintenant la question importante, c'est que ces installations sont difficilement identifiables.
Certains analystes disent que si Israël attaque l'Iran, cela pourrait avoir des répercussions jusqu'au Pakistan, une puissance nucléaire et musulmane.
Moi, je m'abstiens d'appeler une bombe islamique ou une bombe juive. Pour moi, c'est des structures étatiques qui tiennent des armes qui sont jusqu'à maintenant à vocation dissuasive. Et le seul usage que l'histoire ait connu, c'était au Japon. Et jusqu'à maintenant, on sait quelles sont les conséquences. Sachant que les bombes nucléaires sont maintenant des centaines de fois plus destructives que celles qu'on a connues à Hiroshima et à Nagasaki. Une seule bombe ici ou là, et vous avez non seulement le Pakistan, mais cela peut avoir des répercussions jusqu'à ici en Europe et donc les conséquences peuvent impliquer tout le monde, non seulement la région. Sachant que aussi la radiation nucléaire ne peut pas savoir où sont les frontières des uns et des autres. Et une bombe atomique dans la région ne va pas toucher un seul pays. Mais bon, par exemple, le cas israélien, s'ils utilisent une seule bombe, leur territoire, eux-mêmes, seront touchés en premier.
On s'est rendu compte que non seulement l'Iran, mais également d'autres pays de la région, l'Arabie Saoudite, les autres pays du Golfe, voudraient eux aussi avoir accès à la technologie nucléaire à vocation, je dis bien, pacifique.
Bah, écoutez, le mot pacifique me fait largement penser à quelque chose de caché et clairement caché derrière tout ça. Sachant que les Israéliens sont eux-mêmes les premiers à avoir utilisé le mot usage pacifique, puisqu'à l'époque, les accords entre les Canadiens et les Indiens étaient aussi des accords d'ordre pacifique. Ordre pacifique entre Indiens et Canadiens, ordre pacifique pour les Israéliens pour envers Paris et Washington pour cacher leur programme, ordre pacifique aussi par la suite pour les Iraniens, mais ça sera à des fins pacifiques aussi en Égypte, en Turquie, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Libye et ailleurs. Le problème qui se pose actuellement, c'est un problème, si vous voulez, de régulation de cette histoire. Parce que le monde, si il continuait dans cette voie, il y aura certainement une volonté de la part de tout le monde, et notamment les États de la région, à se doter de l'arme atomique, parce qu'il est considéré comme l'arme suprême qui va prévenir, il va apporter la stabilité. Mais jusqu'à maintenant, on sait, comme j'essaie de le démontrer dans mon ouvrage, que c'est cette arme qui a abouti au déclenchement de la guerre en 67.
Alors quand vous dites 67, est-ce que vous pouvez expliquer comment cette arme nucléaire a provoqué une escalade militaire en 67 au Moyen-Orient?
À l'époque, la construction des réacteurs s'achève et le réacteur rentre en fonction en 1967. Nasser, le président égyptien qui suivait de très près la construction du réacteur, a les informations selon lesquelles le réacteur ne va pas tarder à entrer en fonction. Il va essayer de se préparer à la guerre et il va même envoyer ses avions de reconnaissance survoler le site du réacteur et ce site va être survolé à la fois à la mi-mai mais en fin du mois de mai 67 et ils vont être abattus par la défense israélienne. Et là, on va assister à une volonté israélienne et on a beaucoup parlé de la révolte des généraux, y compris le général Sharon à l'époque, qui vont faire des pressions énormes sur le gouvernement pour déclencher et pour arrêter Nasser. Et là, si vous voulez, le fait que Nasser se prépare à la guerre pour détruire le réacteur et le fait que les Israéliens sentent la menace et essayent de défendre le réacteur et mènent leur première guerre préventive, ils vont donc mettre la main sur le Sinaï, la Cisjordanie, la bande de Gaza et le Golan. Et c'est à cause donc de la volonté de Nasser d'arrêter le réacteur que cette guerre va avoir lieu. Et donc, pour moi, ces armes atomiques ont déclenché les guerres et n'ont pas forcément dissuadé les Arabes.
BBC Afrique, le meilleur de toutes les musiques.
Eddie Mix, le génie de platine, le numéro 1 dans tout Paris. Restaurant Congo ça en Nantes, je le président Gassa, la référence des connaisseurs. Oh,